Vous écoutez On lit pour vous.
Plus d'une espèce sur deux touchée par le déclin. Un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 22 septembre 2025 dans la presse. Le déclin de la biodiversité n'épargne pas le Canada. Selon le plus récent bilan du Fonds mondial pour la nature, les populations d'animaux sauvages au pays ont décliné de 10 % au cours des 50 dernières années. Et plus de la moitié des espèces subissent des reculs parmi toutes les catégories d'animaux. Le portrait le plus précis. Les populations de vertébrés au pays ont reculé de 10 % depuis 1970, signale le rapport Planète vivante Canada, dévoilé ce lundi. Selon le Fonds mondial pour la nature, section Canada WWF Canada, ce rapport brosse le portrait le plus précis et le plus sombre de la perte d'espèces au Canada jusqu'à présent. Plus de la moitié des espèces étudiées connaissent une baisse de leur abondance et tous les groupes d'animaux ont subi des reculs. WWF Canada mentionne que le rapport est publié au moment même où les gouvernements de tout le pays privilégient la rapidité du développement en assouplissant les règlements qui protègent la nature et les espèces en péril. Les prairies durement touchées. Le déclin de la biodiversité touche toutes les régions au pays, mais c'est dans les prairies qu'il est le plus marqué. Dans le centre du Canada, les populations d'espèces sauvages ont reculé de 62 % depuis 1970. Un déclin principalement attribuable à la perte d'habitat. Dans les habitats forestiers de l'ensemble du pays, les populations de mammifères ont diminué de 42 % pendant la même période. Dans les régions habitées par les humains, le recul est de 17 %. Dans la nature, tout est interconnecté. La dégradation d'un habitat ou la perte d'une seule espèce peut entraîner des répercussions en chaîne. Une fois qu'une population est en déclin, la tendance devient difficile à renverser, soutient Megan Leslie, PDG de WWF Canada. Un recul de 12 % pour les oiseaux. Pour les oiseaux en général, le déclin est de 12 %, indique le rapport. L'index de WWF a répertorié 83 % des espèces présentes au Canada pour arriver à ce constat. Actuellement, à l'échelle de tout le pays, 35 espèces d'oiseaux sont en voie de disparition, selon le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, COSEPAC. On retrouve entre autres dans cette liste le bruant de Henslow, la grue blanche, la paruline azurée, le pic à tête rouge et le pluvier siffleur. Une trentaine d'espèces sont aussi considérées comme menacées, dont la griffe de Bicknell, le harfang des neiges, le hibou des marais et le martinet ramoneur. Des espèces de moins en moins abondantes. Pour les mammifères, moins 14 %, les poissons, moins 6 %, ainsi que les amphibiens et les reptiles, moins 14 %, l'index observe des déclins tout aussi importants de leur population. Contrairement aux populations d'oiseaux, cependant, les espèces analysées pour ces familles d'animaux étaient moins nombreuses, indique-t-on. De façon générale, souligne le rapport, toutes les espèces de vertébrés ont également subi des baisses significatives de leur abondance au cours des 50 dernières années. Plus de la moitié des espèces étudiées sont moins abondantes. En moyenne, tous les groupes d'espèces inclus, oiseaux, poissons, mammifères, reptiles et amphibiens, tendent vers la mauvaise direction, précise le rapport. Un relâchement qui soulève des inquiétudes. WWF Canada dit s'inquiéter d'un relâchement des mesures environnementales au pays. L'organisme signale l'adoption de nouvelles lois fédérales et provinciales qui donnent au gouvernement des pouvoirs étendus pour accélérer les grands projets d'infrastructure en contournant les protections environnementales et juridiques pour les espèces en péril. On pense notamment à la nouvelle loi sur l'utilité de l'économie canadienne, ou loi C5, qui est contestée devant les tribunaux par le Centre québécois du droit de l'environnement, CQDE. Les tendances dévoilées dans le rapport Planète vivante Canada montrent que les populations continuent de suivre une courbe descendante. Plus nous tardons à réagir, plus le déclin s'accentuera, mentionne James Snyder, vice-président de WWF Canada. C'était plus d'une espèce sur deux touchée par le déclin. Un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 22 septembre 2025 dans la presse.
Les 65 ans et plus méritent un accès équitable aux vaccins renforcés destinés pour eux. Un texte de Benoît Masse paru le 22 août 2025 dans Virage. On va se souvenir de l'hiver 2025 au Québec, très neigeux, très froid est marquée par une vague de grippe particulièrement forte. On se souviendra aussi des appels tardifs des autorités de santé publique en février et mars qui demandaient à la population, citation, de relever leurs manches, fin de citation, pour se faire vacciner. Un jardinier vous dira qu'on ne plante pas des tulipes au printemps si l'on veut les voir fleurir en mai. Il faut s'y prendre à l'automne. Il en va de même pour la vaccination contre la grippe. Si on veut s'aider à se protéger pendant les mois les plus critiques de l'hiver, on devrait se faire vacciner à l'automne. Et encore, faut-il recevoir le vaccin approprié? Les évidences sont claires. Les vaccins renforcés sont destinés aux personnes de 65 ans et plus, car ils offrent une meilleure protection contre les complications graves de la grippe comparativement aux vaccins standards. Au Québec, les 65-74 ans reçoivent encore en majorité la version standard du vaccin, tandis que le reste des Canadiens de 65 ans et plus reçoivent les vaccins renforcés. Pire, dans les deux dernières campagnes, l'accès universel aux vaccins renforcés n'a été annoncé qu'en décembre, bien après que la majorité des gens se sont déjà fait vacciner. Pourtant, il ne s'agissait pas ici d'un enjeu d'approvisionnement. Le Québec avait accès aux vaccins. Il manquait plutôt une décision claire en faveur du vaccin renforcé et surtout une communication efficace et fréquente pour mobiliser les personnes concernées dès le début de l'automne. Le Québec affiche la plus faible couverture vaccinale contre la grippe chez les 65 ans et plus au Canada. Une situation préoccupante, alors que ce groupe est particulièrement vulnérable, d'autant plus que notre système de santé continue d'être mis à rude épreuve. Il est temps de corriger le tir. Permettre l'accès aux vaccins renforcés dès le début de la campagne de vaccination à l'automne à tous les 65 ans et plus est la bonne chose à faire. C'est un geste simple qui aide à prévenir des hospitalisations, à sauver des vies, à améliorer la qualité de vie et à réduire les pressions inévitables sur notre réseau de soins. L'automne prochain, n'attendons pas la neige pour agir. Planifions, informons, vaccinons. Et surtout, faisons-le à temps avec le vaccin de préférence pour les Québécois de 65 ans et plus. C'était « Les 65 ans et plus méritent un accès équitable aux vaccins renforcés destinés pour eux », un texte de Benoît Masse paru le 22 août 2025 dans Virage.
Politique de l'affect, un texte de Nathalie Platte, paru le 17 novembre 2025 dans Le Devoir. On les regarde de haut souvent, on les rationalise quand on ne les méprise pas carrément, en usant de ce ton emprunté style lecteur de nouvelles, qui rend compte du monde en s'extirpant continuellement de celui-ci. On les banalise, les féminise et les ridiculise, embrassant à pleine bouche cet idéal dualiste qui continue de penser la vie humaine dans son aspect divisible. D'un côté, la raison, celle qui devrait mener le bal, de l'autre, la sphère des affects, des sentiments, de la corporalité, de toutes ces choses dites secondaires à l'expérience et à l'organisation du vivre ensemble. On continue de nous lancer des chiffres et d'invoquer des « quand même » et des « n'empêche », lorsque certains d'entre nous, certaines surtout, s'agitent en remettant au premier plan des sentiments, du cœur, des larmes, des corps qui n'arrivent plus à garder leur calme devant trop d'injustices, devant l'inhumain, devant le saccage de la nature, de l'autre, de celui ou celle qui ne nous ressemble pas, mais qui nous concerne quand même. Et pourtant, on le sait bien, la politique, que ce soit dans l'espace privé ou dans l'espace public, est le théâtre des passions et des affects. Amour et haine, espoir et déception, identification et rejet, introjection et projection sont à l'œuvre et traversent la vie politique, les institutions, les attitudes et les comportements politiques, selon le politologue français Pascal Perrineau. Car ce sont bien elles, nos expériences affectives profondes, enchâssées dans notre corporalité, qui fondent nos indignations premières. C'est ce qu'affirme l'anthropologue Shaura Makaremi dans son brillant essai « Résistance affective » récemment publié dans La Découverte. Comment nos attachements les plus élémentaires nourrissent-ils des formes d'organisation et d'action qui donnent corps à la question de la résistance et parfois la déplacent ? Demande-t-elle. En nous amenant à constater combien le corps, lui qui est constamment exclu du discours et de la pensée politique, est absolument central dans notre expérience des rapports de pouvoir. En ramenant le politique à sa dimension éprouvée par le sujet directement dans l'expérience, dans le corps de ceux et celles qui vivent avec une réalité directement affectée par les systèmes de pouvoir, son analyse révèle combien certains affects servent le pouvoir alors que d'autres le menacent. Chora Makaremi éclaire aussi, page après page, combien ce sont bel et bien les émotions qui nourrissent le patriarcat, qui sont permises dans l'espace public, comme celles, notamment du triomphe sportif ou stratégique, alors que celles, plus associées au genre féminin, comme l'empathie ou le deuil, sont systématiquement remises à leur place, hors des assemblées nationales, parlements et autres bureaux ovales dans la sphère privée qui ne menacera pas l'ordre établi. En parlant des femmes qui font la révolution, elle écrit « C'est par nos corps et à travers nos corps que nous opposons un refus à ce qu'un pouvoir nous dit, par ce crime, de lui-même et de sa relation à nous toutes. » Dans ce chapitre, simplement intitulé « Cheveux », elle prend pour point de départ le mouvement de résistance de ces femmes iraniennes qui, au lendemain de l'assassinat de la jeune étudiante iranienne d'origine kurde, Mahsa Amini, se filmait en train de se couper les cheveux. Certaines émotions seraient aussi priorisées et instrumentalisées dans des discours visant à maintenir des systèmes d'oppression, comme le décrit l'historienne et anthropologue Anne Stoller, citée par Chora Makaremi. En analysant les logiques coloniales, elle constate combien le dégoût, par exemple, n'est pas seulement un affect privé, mais bien instrumentalisé par des gouvernements qui souhaitent prolonger les cassures existantes entre certaines catégories sociales et maintenir des réactions de rejet envers des personnes spécifiques. Il en va de même pour le deuil qui, lorsqu'il est porté par les mères notamment, est perçu comme peu investi de réels pouvoirs de changement social. La vraie empathie par ailleurs, celle qui consiste à tenter de se mettre à la place de l'autre, réellement, en allant plus près de son éprouvé, trouve peu sa place dans le discours des politiques. Si elle est parfois invoquée, c'est plutôt dans sa version édulcorée, à géométrie variable, où l'on se sert d'un drame humain pour générer de la colère, un durcissement de mesures ou une plus grande adhésion à des normes qui viseront la sécurité. L'empathie profonde, celle qui nous ramène à notre humanité partagée, nous rend en effet incapables de nous désintéresser du sort des autres, en nous faisant dépasser la peur de perdre nos privilèges pour penser quelque chose comme le bien commun. C'est bien pour ça qu'on préfère qualifier les affectés du sort des autres de bisounours, comme l'avait fait Marine Le Pen en 2016 sur le plateau 24-60 au sujet de notre politique d'accueil des immigrants. Plutôt que de laisser les affects de désolation, de tristesse, de désœuvrement et de honte nous habiter face aux écarts trop grands qui cassent notre monde en deux. Tout souci véritable de l'autre engage une part de notre être dont nous ne maîtrisons pas l'issue, écrivait la philosophe Martha Nussbaum. Ne pas être en maîtrise de soi ou de l'issue n'a pas la cote par les temps qui courent, et surtout pas chez nos politiques. Cette prise de risque, celle de se relier au sort de l'autre jusqu'à en être transformé soi-même, implique une capacité à tolérer le contact avec sa propre vulnérabilité, son propre non-savoir, et avec cette idée formulée ainsi par Chora Makaremi du « ça aurait pu être moi ». Quand on laisse cette éventualité nous saisir, en croisant le regard d'une personne sans abri ou d'une mère endeuillée sur une image en provenance de Gaza, il y a forcément en nous une mobilisation d'affects qui, si on ne les interdit pas, pourrait bien, oui, germer en une forme de mobilisation révolutionnaire. C'est bien pour cette raison qu'ils subissent une forme de douce répression par ces faux appels à la raison qui placent les données économiques, les vrais problèmes d'accessibilité à des services, au logement ou autres, en tant que justification d'actions dites responsables. Or, cette supposée responsabilité, paradoxalement, mitige continuellement le contact et l'expression d'affects qualifiés de sentimentalistes, romantiques, voire idéalistes. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour moi, pleurer devant les infos, m'imaginer chaque fois que ça aurait pu être moi, devant la souffrance de l'autre, me garde non seulement vivante, mais persuadée qu'il y a dans l'expression de ces affects les germes de la plus puissante des résistances qui soit. C'était « Politique de l'affect », un texte de Nathalie Platt, paru le 17 novembre 2025 dans Le Devoir.
La vie d'immigrants pendant la saison de hockey, un texte d'Elim Duffly, paru le 7 octobre 2025 dans la presse. Elim Duffly, professionnel, œuvre dans le domaine des communications et du marketing et est originaire du Togo. Il s'est passionné pour le hockey peu de temps après son arrivée au Québec et a côtoyé des partisans au moins aussi intenses que lui, dont une certaine Navi Huguette. Elim, il faut absolument que tu rencontres Navi Huguette. Cette joyeuse injonction provenait de mon amie Augustine, originaire du Togo comme moi, alors qu'elle me parlait d'Huguette pour la première fois. Originaire de deux pays frères de l'ouest de l'Afrique, le Bénin et le Togo, Huguette était si proche d'Augustine que cette dernière disait à qui voulait bien l'entendre qu'elle était sa deuxième mère. D'ailleurs, dans ce coin du monde, Navi, qui signifie « petite tante », est un terme utilisé pour marquer son respect envers toute femme en âge d'être votre mère. Dans la jeune cinquantaine, Huguette était une férue de hockey. L'injonction qui m'invitait à la rencontrer s'expliquait par ma propre passion que j'ai développée pour ce sport quelques mois après mon arrivée au Québec et ma propension à me faire aller le mâche-patate dans la communauté à propos de cette nouvelle discipline que mes amis et moi apprenions à apprivoiser. Ça a commencé par ce petit disque noir dont nous avions toute la misère du monde à suivre le déplacement sur la surface glacée, déchiré par des coups de patin acérés. Disque que très vite nous appelions « la rondelle », à force d'écouter la description des indétrônables Pierre Houde à la télé et Martin Maguire à la radio, et même plus tard, « la POC », quand nous étions assez confiants pour jouer aux gens qui connaissaient leur hockey. J'ai la nostalgie des nombreuses heures passées à écouter des analystes, à ratisser les forums de discussion, les sections commentaires des sites de sport à la recherche d'anecdotes, les heures passées à implanter dans notre mémoire des souvenirs appartenant à la mémoire collective de la société d'accueil. Les habitants, le démon blond, le roquette, le gros Bill, le clin d'œil de Casso, le but d'Alain Côté, Chris Chelios, etc. On joue-tu à soir? Puis il y a eu Piqué-Souban. L'équipe était désormais nôtre aussi. Ce n'était plus « Est-ce que le Canadien joue ce soir ?» C'était « On joue-tu à soir ?» On bâtissait nos propres souvenirs, concoctait nos propres anecdotes. Une de mes superstitions en série éliminatoire était de croiser un chandail 76 avant d'arriver chez Augustine pour voir le match. En toute honnêteté, nous étions plus fans du Canadien de Montréal que de hockey. Pas Huguette. Alors que notre intérêt pour la Ligue s'arrêtait au déboire de la Sainte-Flanelle, cette maman africaine regardait, autant que faire se pouvait, tous les matchs de l'Est et de l'Ouest. Elle pouvait à la fois vous parler des mains magiques de Pavel Datsyuk que de la force herculéenne de Big Buff. Mais Navi Huguette était surtout reconnue pour ses célébrations des buts du Canadien. Il fallait la voir se jeter en bas de son divan, une main en l'air, l'autre servant d'appui au sol, se tortiller comme une truite hors de l'eau. C'était la chose la plus drôle et la plus passionnante de fan de hockey qu'il m'a été donné de voir. Quelque part au Québec, dans une autre famille d'origine togolaise, après avoir vu Souban jouer à la télé, un petit garçon s'est tourné vers ses parents et leur a demandé s'ils pouvaient pratiquer le même sport. Le 27 juin 2025, Bill Zonon a été repêché en première ronde par les Pingouins de Pittsburgh. Vous dire ma fierté. Attaboy, mon Billy, ai-je lancé à côté de ma femme qui est une inconditionnelle des Pingouins, fille des Maritimes, Sidney Crosby. Vous voyez la connexion? J'imaginais surtout la discussion enflammée à venir avec Navi Huguette à propos de ce premier Togolais dans la Ligue nationale. Je salue le courage des parents de Bill Zonon qui ont accompagné leur enfant dans cette nouvelle aventure qui s'annonçait dépaysante pour eux. Je te salue, Moïse, en face du vieux clocher dans la rue Beaubien. Ça a toujours été un plaisir de partager une bouteille de rouge avec toi pendant les matchs du Canadien. Je te salue, Patrick, dans la rue Molson, pour toutes les fois qu'on a crié « Tire, putain, tire » par-dessus les voix de Martin Maguire et de Danny Dubé à la radio. Je te salue, Fabrice, qui a failli nommer son premier fils Yaroslav en hommage à Halak. 3 jours après le repêchage, je recevais un message de Théo, le frère d'Augustine, m'annonçant la mort de Navi Huguette, survenue 2 semaines plus tôt. Je n'aurais jamais la chance de parler de Bill avec Huguette. Cependant, je me rappellerai toujours sa bonne humeur, sa gentillesse, ses blagues tordantes, ses célébrations, sa passion pour le Canadien de Montréal et pour le hockey. Félicitations, Bill, et bonne chance pour ta carrière. Huguette aurait été terriblement fière de toi. Mais, évidemment, et sans rancune, go Habs go, bonne saison. C'était « La vie d'immigrant pendant la saison de hockey », un texte d'Elam DeFly, paru le 7 octobre 2025 dans la presse.
Boire en mangeant nuit-il à la digestion? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 28 septembre 2025 dans La Presse. Maude Martin, une lectrice, nous demande « Est-il vrai que boire pendant qu'on mange diminue l'efficacité des molécules sécrétées par l'estomac, comme les enzymes gastriques? » L'eau à la température ambiante ne nuit pas à la digestion, mais la température du liquide ingéré et le type de liquide peuvent en effet avoir un impact. La réponse courte, c'est non, dit Stephen Le Fenton, biologiste de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, INRAE, en banlieue de Paris. Dans l'estomac, on est en excès d'enzymes. La chirurgie bariatrique, par exemple, réduit l'estomac comme peau de chagrin. Et on n'a tout de même pas de problème à digérer. L'homme a évolué en buvant de l'eau. Un repas met de 3 à 5 heures à être digéré, note M. Le Fenton, qui poursuit l'estomac met beaucoup de temps à se vider. Et ensuite, la digestion se continue dans l'intestin grêle. Il y a bien un moment dans la journée où il faut qu'on boive. S'il fallait attendre d'avoir fini de digérer, on boirait la nuit. Plus de 5 litres de sécrétions digestives sont générées chaque jour, selon le biologiste français. Évidemment, et si on buvait 10 fois plus d'eau, ça poserait problème, fait-il remarquer. Mais normalement, on boit 1 ou 2 litres de liquide dans la journée. Alors, il n'y a presque pas d'impact. Si on boit autre chose que de l'eau, d'autres considérations s'imposent. M. Le Fenton a fait quelques constats dans ses recherches. Par exemple, les boissons acides diminue le relâchement de sucre, et donc la glycémie, quand on consomme des aliments riches en amidon, comme le pain et les céréales à déjeuner. Si on boit du vin, la digestion de la fondue au fromage est ralentie, ce qui limite la pression sur l'intestin grêle. Mais si on ajoute du schnapps, on mange davantage de fondue. Il a aussi découvert que les liquides chauds améliorent la digestion et augmentent la quantité de calories consommées lors des repas. De son côté, David Tagliazucchi, biologiste de l'Université de Modène en Italie, a montré que les phénols du vin rouge facilitent la digestion des protéines animales, mais que si on en prend trop, l'éthanol qui s'y trouve, sous forme d'alcool, ralentit cette digestion. Donc, dit-il, prendre un verre de vin rouge avec de la viande aide à la digestion, mais en prendre davantage est nuisible. Certaines maladies réduisent l'efficacité des enzymes digestives. Dans ces cas, ingérer des liquides durant le repas peut poser problème parce que les sécrétions digestives se retrouvent diluées. Les pancréatites aiguës, par exemple, sont associées à beaucoup moins d'enzymes, indique M. Lefenten. Dans ces cas, il peut être approprié de moins boire en mangeant. Cinétique. Stephen Lefenten travaille depuis 15 ans sur la digestion à l'INRAE. Il fait partie d'un réseau international de 700 chercheurs qui étudient la cinétique digestive, la rapidité de digestion. Ces recherches ont un lien direct avec le débat actuel sur les aliments ultra-transformés. Notre tube digestif est très performant au niveau de la conversion des aliments en nutriments, indique M. Lefenten. La conversion atteint 90 %. Par contre, on s'est rendu compte ces dernières années que la cinétique digestive a un impact direct sur notre métabolisme. On sait, par exemple, que les sucres rapides, par exemple dans les liquides sucrés, vont plus directement dans notre sang et nos organes que les sucres lents, comme le pain et les pâtes. Ça peut poser problème pour les organes et pour les diabétiques. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a aussi des lipides lents et rapides, des protéines lentes et rapides. Pour les personnes âgées, par exemple, qui souffrent de sarcopénie, de perte de masse musculaire, il pourrait être bénéfique de boire du lait plutôt que de manger du fromage pour avoir des protéines rapides. Les aliments ultra-transformés, selon M. Lefenten, sont particulièrement problématiques parce que toutes leurs catégories de nutriments sont rapides à digérer, ce qui favorise la consommation de calories à l'excès. En savoir plus. 41 %, proportion des liquides ingérés chaque jour par les personnes âgées aux États-Unis qu'ils sont au repas. Source Nutrients. C'était « Boire en mangeant nuit-il à la digestion? » Un texte de Mathieu Perrault, paru le 28 septembre 2025 dans La Presse.